L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'EM, votre quotidienne sur Transistor. Nous sommes en direct de midi à 13h et aussi en rediffusion le soir même à 18h. La violence est partout. C'est un sujet vaste qui touche tous les sujets et absolument tout le monde. On n'arrive même plus à discuter sans être désagréable, voire même vindicatif. Il suffit de se promener sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Et cohabiter avec la violence, eh bien, c'est presque devenu banal. C'est tellement banal qu'on ne fait pas le distinguo entre ce qui est bien et ce qui est mal dans l'éducation de nos enfants. Heureusement, certaines personnes prennent du recul et se sont aperçues qu'une autre voie éducative est possible. Aujourd'hui, nous recevons Anne Raffray, qui est présidente et fondatrice de l'association C'est quoi ça ? Bonjour Anne.
Bonjour David.
Comment ça va ?
Un petit peu stressée quand même, honnêtement.
C'est vendredi, ça va, c'est cool. Voilà. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ?
C'est quoi ça ? Donc ça interpelle, effectivement. C'est l'acronyme pour dire, c'est de la culture d'ocytocine pour accorder le cœur et les actes. L'ocytocine, c'est une hormone qu'on sécrète quand on va bien, quand on est heureux, quand on se fait des câlins, quand on, voilà, quand on se procure de la joie.
Quand on fait un LEM le vendredi ?
Je pense que j'ai un petit peu de cortisol aussi là en vrai, hein. Mais on redit ça dans une demi-heure.
Ouais, ça marche.
Et accorder le cœur et les actes, eh bien, c'était un peu la façon pour nous de définir, enfin de, voilà, je bafouille, ça commence pas bien, de se dire entre ce qu'on fait et ce qu'on ressent dans notre corps qui est juste, des fois il y a des différences et en fait. Notre curseur, c'est plutôt ce que dit notre cœur et notre corps. Donc voilà, on se dit que si on arrive à être en phase entre nos actes et ce qu'on ressent, c'est qu'on doit être à peu près dans ce qu'on peut appeler de la non-violence.
Alors pourquoi vous avez eu envie de monter cet asso ?
Alors c'est une longue histoire d'intérêt d'abord pour les enfants ou d'abord pour la non-violence, je sais pas. Moi c'est un peu quelque chose qui m'anime depuis toute petite. Et là, ce qui a été un peu le déclencheur, c'est qu'en France en 2019, il y a eu enfin, j'ai envie de dire, une loi qui a parlé des violences éducatives ordinaires et pour les interdire. Et donc, on s'est dit, ok, bah là, c'est le moment de prendre notre place pour accompagner ça. Parce qu'une loi pour interdire, c'est bien. Mais comment on fait ? Parce que on est avec mes enfants, on n'est pas juste, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça, mais du coup, comment je fais ? Donc, l'idée de l'asso, c'était de proposer un espace où on puisse, parler de ça, partager, sans jugement, en parler aussi ouvertement, parce que c'est un mot qui est quand même encore tabou. Et donc voilà, d'essayer de mettre un peu de lumière sur là-dessus pour regarder et pour pouvoir s'interroger et essayer d'avancer en tant que, pas que parent, en tant qu'adulte accompagnant d'enfants.
Elle est en place depuis quand, cet asso ?
Officiellement, elle est créée en 2020.
Ah, c'est très récent,
du coup. Ouais, mais le premier festival, il a eu lieu en 2022 et c'est là le lancement de l'asso, quoi. Voilà. Ouais, donc elle a 2 ans en fait, cette asso.
Ouais, toute neuve. Elle a jamais servi. Et là, elle va servir un petit peu parce que vous allez faire un festival. C'est le premier ou c'est
Non, c'est le troisième.
C'est le troisième.
Le lancement a été sur le premier festival. Donc on a voulu le lancement autour de la journée du 30 avril parce que ça fait 20 ans maintenant, parce qu'on fête le 20e anniversaire, que c'est une journée nationale contre les violences éducatives ordinaires. Ou pour la non-violence, si on veut parler en positif. Mmh. Et donc, c'était important symboliquement de lancer l'association à cette date. Et ça, c'était en 2022. Donc, on a fait 2022, 2023. Et cette année, c'est la 3e édition.
D'accord. Et c'était, alors, mis à part un festival régulier, il y avait quoi d'autre comme action qui était prévue à la base ?
À l'année ?
Ouais, à l'année.
Du coup, il y a du yoga du rire. Parce que en fait, l'idée, elle est vraiment de se dire, ok, on a un moment fort dans l'année qui est le festival, où là, on va vraiment parler des choses et aussi faire tout un tas de choses qui va nous permettre de cultiver cette fameuse ocytocine. Mais toute l'année, de s'outiller aussi un petit peu avec des choses qui nous nourrissent positivement, quoi. Donc, perso, je suis formée en yoga du rire et c'est ce que je propose toutes les semaines. Ça, c'est une des activités. On a eu un moment, ça s'est arrêté, ça va reprendre des ateliers Faber et Maslisch. Donc, c'est quelque chose qui vient du Canada et ce sont des ateliers à destination des parents. Il y a des thématiques sur la fratrie, comment écouter ses enfants, comment faire en sorte que nos enfants nous écoutent pour parler mieux, etc. Enfin, voilà, en tous les cas, c'est des ateliers réservé aux parents. En atelier régulier, pour l'instant, on est là-dessus avec un projet d'ouverture imminente d'une forest school aussi. Voilà, une école dans les bois. Qui ne sera pas une école, qui sera un accueil d'enfants sur le temps péri-extrascolaire, mais aussi accueil de classe.
On en reparlera.
Ouais.
Avec... C'est presque sûr. Bon, alors on va rentrer un petit peu dans le dur. Maintenant, alors c'est quoi la violence éducative ordinaire? Moi, je trouve ça très étrange, ces trois mots associés. On pourrait parler peut-être aussi d'éducation violente ou pas?
Je crois que le terme violence éducative ordinaire, le ordinaire est hyper important parce que éducation violente dans les esprits, on pense beaucoup à la violence physique. La maltraitance qui elle est interdite et
vraiment pas conseillée.
Voilà, et puis ça fait de nombreuses années qu'elle est identifiée et qu'il y a encore plein de travail à faire là-dessus, ça c'est sûr, mais les violences éducatives ordinaires, elles sont un peu plus insidieuses, elles laissent pas des traces apparentes. Et elles sont ordinaires surtout parce qu'elles sont... je vais vous donner la vraie définition, déjà.
Ouais, pourquoi elles sont ordinaires, ouais.
La définition des violences éducatives ordinaires, c'est l'ensemble des pratiques coercitives et punitives utilisées, tolérées, voire recommandées dans une société pour éduquer les enfants. Et du coup, c'est en ça qu'elle est ordinaire, c'est qu'elle est tellement admise... que ce n'est même des recommandations pour auprès des parents, d'après certaines personnes.
Alors ça, c'est un peu fou. Comment on peut... naïvement, comment on peut recommander d'être violent avec des enfants?
Parce que vous le disiez tout à l'heure, on en parlait en off, c'est quoi être violent? C'est que là, dans les VEO, il y a les violences physiques, toujours, les gifles, les pincements... secouer, tirer les cheveux, etc. Mais il y a aussi les violences psychologiques qui sont de l'ordre plutôt des menaces, du chantage, de la culpabilisation et les violences verbales qui sont hyper quotidiennes et qui sont plutôt les moqueries, les propos humiliants, les petites injures, voilà, des choses qui peuvent paraître un peu plus anodines mais qui répétées laissent des traces.
Oui, mais le coup du recommandé.
C'est-à-dire, là, on peut quand même... Enfin, moi, je sais que je l'ai eu. Mon aînée, elle a 15 ans. Les médecins, encore, à l'époque, elle pleurait. Ben, laissez-la pleurer. Et puis, au bout d'un moment, elle va se taire. Ça ne va pas durer très longtemps.
La fameuse Méline Fessée, j'en ai eu plein quand j'étais petit. Voilà, ça ne m'a jamais fait mal.
J'en suis pas mort.
On en rigole. Mais c'est un grand classique.
Tout à fait. Et moi, là-dessus, j'ai vraiment eu une lecture un peu révélatrice qui est la lecture d'un livre qui s'appelle « Pour une enfance heureuse » de Catherine Guéguin, que je conseille vraiment. C'est une pédiatre qui je trouvais, mettait fin au débat, justement, fessé. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que, oui, on en a tous eu? C'est pas grave. Voilà. Là, il y a vraiment des études neuroscientifiques, pour le coup, qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Qui nous permettent de dire que non, ça ne fait pas avancer. On grandit pas bien comme ça, notre cerveau ne se développe pas bien dans la peur, la contrainte et le stress. Et que du coup, on s'en sort, bien sûr, mais ce serait plus facile si on n'avait pas ces bases-là.
C'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais est-ce qu'on peut dire que ces violences-là, répétées et recommandées, est-ce qu'elles sont quelque part un petit peu culturelles ?
Ah, tout à fait. Tout à fait, puisque en Suède, par exemple, ça fait, je crois, 40 ans qu'ils ont voté cette loi, et en plus un peu moins allégée que nous. Et du coup, on peut voir, alors ils ont, c'est pas une société parfaite, hein, attention, hein, mais on peut voir qu'ils ont un rapport adulte-enfant, et surtout que l'enfant a une place dans la société qui n'a rien à voir avec chez nous, même dans le temps réservé à la famille, dans les aménagements, enfin l'enfant est beaucoup plus pris en considération comme être humain plutôt que comme suiveur qui un jour aura droit à la parole.
Et on parle de la Suède qui est un pays un petit peu différent du nôtre. Est-ce que, par hasard, est-ce que vous savez si ces violences-là, est-ce qu'elles changent en fonction des cultures ?
Sous leur forme ?
Ouais. Difficile à dire.
J'ai envie de dire sans doute. Mais j'ai quand même l'impression que la question, c'est même si la forme change, c'est l'idée de que l'adulte, par son âge juste et par sa position par rapport à l'enfant, se sente le droit de le soumettre. Et du coup, c'est un peu ce qu'on dit, c'est que toutes ces petites violences là, enfin petites, je dis petites, pas parce qu'elles n'ont pas d'importance, mais parce que elles sont pas très visibles ou voilà. En tous les cas, ce qu'on dit, c'est que ces violences, elles enseignent à l'enfant dès le plus jeune âge la soumission à toute personne qui aurait autorité sur lui, et que du coup, il y a quand même ça conditionne un comportement où on prédispose les enfants à de la prédation, en fait, parce que si on est un peu extrait de ses besoins et de se dire, en fait, l'adulte sait toujours mieux que moi, peut-être que s'il veut m'emmener là, moi, mon corps, il a envie de me dire non, mais en fait, c'est un adulte qui est responsable de moi et donc je dois le suivre. Voilà, c'est sans doute un terreau pour la violence plus grave.
Alors, on en a parlé un tout petit peu, là, à l'instant. Comment les formes, enfin les VEO, hein, donc les violences éducatives ordinaires, affectent-elles le développement psychologique, psycho-affectif et cognitif de l'enfant ?
Alors là, ça aurait été chouette que je sois accompagnée de ma collègue qui est un peu plus scientifique que moi, mais en gros, dans le cerveau, il y a le cortex préfrontal qui se développe plus on est dans un environnement calme, bienveillant. Alors bienveillant, ça veut dire tout dire et rien dire, mais
sympa, on va dire
ouais,
sympa.
Ouais, sympa, et puis sans tension, sans trop de pression et de stress. Et plus cette partie de notre cerveau se développe, et c'est celle qui nous permet de comprendre nos émotions, de les assimiler, d'être en relation, d'avoir de l'empathie. Et du coup, c'est pour ça que ce bouquin de Catherine Guéguin, là, il est hyper dense. Moi, je me souviens que quand je l'avais lu il y a 15 ans, j'avais trouvé que, enfin, c'était c'était mes débuts sur c'est quoi un cerveau et comment ça se développe. Et du coup, je l'avais trouvé un peu dense à la lecture. Mais il a au moins le mérite de montrer que c'est un peu indiscutable. Alors après, on pourra toujours nous dire, il y a des choses qu'on trouve en science qui, 50 ans après, on dit que c'est pas ça, en fait, qu'on s'était trompé. Mais bon, là, je pense qu'avec l'imagerie, on peut quand même avoir des choses assez précises sur ce qui se passe dans le cerveau, et on voit bien que ça active, que le stress, ça paralyse, quoi.
Et alors du coup, les conséquences sur le long terme pour ces enfants-là qui subissent des VEO, ça veut dire quoi ? Qu'ils apprennent et qu'ils prennent ces violences comme une normalité et qu'ils vont l'enseigner ensuite ?
En fait, je crois que les conséquences, on les a, parce que ça fait des siècles qu'on est là-dessus. Moi, je crois que un des trucs de l'assaut, c'est vraiment de se dire, on est tous dans le même bateau, là, tous et toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut se dire, moi, violence éducative ordinaire, jamais. Enfin, je pense pas, en vrai. On est sur des siècles d'héritage, et nous, ce qu'on veut, c'est essayer de faire mieux. Mais clairement, ça nous arrive de crier, ça nous arrive de faire des trucs où ou quand tu es renseigné du coup sur les violences éducatives ordinaires, tu te dis OK, là j'ai conscience que c'est pas cool ce que je fais.
Et c'est probablement ce qui est le plus difficile en fait dans cette histoire-là de violences éducatives et de non-violences éducatives, c'est de se rendre compte
et de pas réussir à faire autrement.
Et de pas réussir à faire autrement, ouais.
Ben ouais.
Alors du coup, c'est quoi la non-violence éducative et comment elle se distingue de la méthode que l'on vient d'évoquer, si on peut appeler ça une méthode, la violence éducative? C'est quoi alors?
Déjà, j'ai l'impression de ne pas avoir répondu à la question précédente, c'est-à-dire sur...
Je suis obligé, mais le temps passe. Le temps passe.
Sur les conséquences, en fait. Les conséquences de ces violences-là, c'est qu'on est dans un monde qui n'est pas franchement en paix aujourd'hui. On ne peut pas dire. Et que moi, ce qui m'anime, en tous les cas, c'est vraiment ça. C'est de réussir d'être en paix en nous-mêmes, dans nos foyers et plus globalement dans le monde. Et qu'on peut dire qu'une éducation un peu violente, ça ne fait pas de mal. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que le monde qu'on a offert à nos enfants, il n'est pas chouette. Donc, tant ce qu'on fait entre humains que ce qu'on peut faire subir à la nature. Donc, sans doute qu'on a quand même une belle mission, nous, adultes, c'est d'essayer de donner d'autres outils, de faire grandir différemment nos enfants pour qu'ils aient d'autres idées de comment on vit dans ce monde.
Alors justement, c'est quoi alors les stratégies spécifiques pour pouvoir utiliser et résoudre des conflits sans recourir à la violence?
Ben, je pense déjà, vous me disiez, hein, on se tutoyait tout à l'heure. Mais
moi, j'ai pas le droit.
Quand on devient parent ou simplement, je pense aux instits aussi, hein, les jeunes instits qui arrivent devant une classe pleine de gamins, ça active plein de choses de notre enfance dont on n'avait pas conscience avant d'être parent, qu'on pensait, ou des choses qu'on pensait un peu réglées. Et ils ont quand même une super faculté à appuyer sur nos boutons et donc je pense que le premier truc c'est qu'on travaille sur nous-mêmes et qu'on soit un peu au clair sur c'est quoi qui nous blesse et pour pas être dans la réaction. En fait, plus on est dans la réaction et sans doute moins on est juste, mais pour rester pour pas être dans la réaction, il faut quand même être bien posé, aligné, enfin voilà. Et ça se fait pas. Sans doute le facteur temps est quelque chose d'important.
C'est-à-dire
quand on est dans une vie hyper rythmée, hyper à la montre.
On essaye de faire plein de choses pour que tout le monde soit heureux.
Et puis que du coup, c'est dépêche-toi, fais ci, lève tes dents, et nanani, et nanana. Et en fait, c'est une série d'ordres en permanence. Et le cerveau humain, il n'est pas fait pour recevoir des ordres. Quand on se dit à 2-3 ans, là, c'est la période d'opposition, c'est normal, il dit non à tout, machin. En fait, c'est pas ça. C'est qu'à un moment, c'est à une période où ton cerveau, il a besoin de pratiquer son libre arbitre, parce qu'on n'est pas conçu biologiquement pour être soumis. Donc il a besoin de choisir, l'enfant. Donc c'est ça, c'est essayer de trouver des espaces, de se mettre au temps de l'enfant, qui va forcément être plus long, parce que si tu veux réussir à faire tes lacets tout seul, eh ben, va falloir que je prenne le temps, que tu les fasses. Tout prend plus de temps puisqu'il est en train d'apprendre. Donc sans doute qu'il y a un ajustement à ce niveau-là de nos exigences sur le rythme et sur tout ce qu'on met dans une journée. Voilà, moi je suis fan du dehors. Je pense que on est beaucoup plus serein à l'extérieur qu'entre quatre murs.
Et surtout quand il fait un temps comme aujourd'hui. Hein.
Ouais. Qui fera toujours le week-end prochain pour le festival.
Ouais.
Oui, on y croit.
On va en parler du festival, on va en parler. Bon, et n'empêche, autour de ça, autour de cette non-violence éducative ordinaire, il y a quand même des mythes et des malentendus courants qui concernent justement cette éducation non violente. Comment on fait pour les démystifier? Et puis, est-ce qu'il y a des détracteurs? Est-ce qu'il y en a encore qui disent non, la violence, c'est mieux?
Je ne sais pas s'ils le disent comme ça, mais en tous les cas, on n'est pas d'accord sur ce qui est violent.
Ouais.
Par exemple, en ce moment, il y a un gros débat sur l'isolement. L'isolement, je ne sais pas s'ils l'appellent l'isolement, mais sur les time-outs, ils disent. Donc, OK, j'en peux plus de toi, va dans ta chambre, réfléchis.
Ça s'appelle comment?
Time-out.
Un time-out.
Donc, en français, je ne sais pas, ouais, temps de... Oui, isolement. Je crois que c'est traduit comme ça. En tous les cas, c'est un moment où on met l'enfant de côté parce qu'il nous saoule, en gros. Et qu'il y a deux versions. Là, il y a ça, et puis il y a les gens qui sont plutôt comme Catherine Dumonté-Crémer, qui est à l'origine de cette journée de la non-violence éducative, qui pense que c'est plutôt aux parents d'aller faire ce fameux time-out. Parce que lui, il a des outils pour respirer, se poser, se reprendre ses esprits, etc. Alors que le gamin, sans doute que des fois, on leur demande des choses qu'ils sont techniquement pas capables de faire parce que leur cerveau n'est pas mature encore pour avoir cette réflexion-là.
Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Mmh. Et que les enfants, ils ne sont pas forcément capables de comprendre parce qu'ils n'ont pas les possibilités.
Ils ne sont pas équipés.
Ils ne sont pas équipés encore.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que nous, notre festival, il est... On met un point d'honneur à apporter aussi un peu d'éléments scientifiques. C'est un grand mot, il ne faut pas que ça fasse peur, parce que c'est toujours amené sous forme de spectacle, etc. Donc c'est très accessible. Mais c'est important, je pense, de dire ce qui se passe vraiment dans nos corps et dans nos cerveaux, pour que ce soit un peu non discutable, en fait. Voilà, un cerveau d'enfant, ça peut pas... Enfin, ça dépend quel âge, mais un petit, il peut pas avoir la réflexion, dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, non, c'est pas cool quand même, machin, d'accord, ok, je vais respirer, nanani, nanana. Enfin, on leur demande des trucs qui sont juste impossibles. Donc, en fait, un isolement, c'est un gros moment de stress, c'est un moment où on sent du rejet, c'est un moment où on sent que des trucs qui font qu'on se dévalorise et qui font chuter la confiance en soi. C'est pas vertueux, quoi.
D'accord. On va parler du festival maintenant.
Ouais.
Alors, bon, c'est quoi alors ce festival? Il va se passer où? Pendant combien de temps?
Il va se passer à Crozon.
Crozon.
Direction Cap de la Chèvre. Donc, on va à Saint-Ernaut, à une salle qui s'appelle Tiscol, mais on a la chance avec cette salle d'avoir une cour et un jardin. Donc, on croise les doigts pour que ce soit comme pour la première édition où on pouvait effectivement être dehors et c'était très, très chouette. Donc, c'est deux après-midi. C'est le 20 et le 21 avril, donc c'est pas ce week-end, mais le week-end prochain. Premier week-end des vacances, pour bien commencer les vacances.
Ah ouais.
C'est un week-end famille, évidemment. Enfin, famille, mais pas forcément parents-enfants. Ça peut être toute personne qui accompagne des enfants, les oncles, les tantes, les grands-parents.
Les instituteurs.
Les instits, les ASMAT, exactement. Avec enfants ou non, d'ailleurs, mais toute personne qui a envie. Mais oui, complètement.
Surtout.
Les grands-parents, mais ouais, il y a des sujets intéressants là sur les parents, grands-parents, parce qu'on est d'autres générations, qu'on a envie d'autres choses pour nos enfants, etc.
Ouais.
Et donc voilà, donc c'est deux après-midi, on commence à 14h30 samedi prochain avec des jeux qui sont pensés pour être ou justement pour être dans la coopération quand même beaucoup et où l'âge n'est pas un atout. L'expérience de l'âge n'est pas un atout. Par exemple, des jeux coopératifs comme dessiner avec un grand crayon géant ou fouette 8 pour pouvoir tourner le truc. Bon, a priori, un adulte de 45 ans n'est pas plus expérimenté qu'un enfant de 10 ans, voire de 5. Enfin, voilà. Donc ça nous met tous un peu à niveau. Et du coup, c'est drôle, parce que notre idée, c'est quand même de rire, d'être dans le partage et la joie, quoi. Voilà, qu'on passe un moment comme ça. Donc on fait des jeux, mais il y a aussi un atelier lecture marionnette. Ça, c'est une petite nouveauté. L'année dernière, il y avait création de marionnettes, mais cette année, elles se mettent à deux, où elles ont pris un album jeunesse. Donc il y aura la lecture de l'album jeunesse, et à côté de ça, création de marionnettes pour donc ça, c'est plus à destination des enfants avec leurs parents, mais plus pour que ce soit les enfants qui crient. Et puis, je fais le déroulé comme ça du week-end.
Hein,
ouais, okay. Ensuite, c'est notre temps fort, c'est 17h30 avec la compagnie Quelle Famille ? Quelle Famille ? C'est un comédien et une comédienne qui s'appellent Fanny et Christian, qui nous arrivent de la région lyonnaise et qui proposent un spectacle interactif autour de thèmes de la parentalité. Donc, on avait fait un petit sondage auprès des parents de la presqu'île pour savoir quel sujet les intéressait le plus. Ce qui est arrivé en premier, c'est les écrans, ensuite le coucher et ensuite le désordre. Voilà, donc c'est les trois thèmes qu'ils vont aborder. Ils vont aborder ça de façon drôle. Ils sont sur scène une première fois, donc c'est vraiment sous forme de scénette. Ils jouent une première fois, il y en a un qui joue l'adulte, l'autre l'enfant, et l'ado, parce que ce que j'ai envie de préciser aussi, c'est que cette année, on a fait attention à prendre des sujets qui concernent des enfants de tout âge, et donc des parents d'enfants de tout âge. Les écrans, on sera plus avec une simulation d'un ado, d'un grand collégien, voire lycéen, je ne sais plus, et puis un coucher, ça va plus être un enfant de 3-4 ans. Et donc voilà, il le joue une première fois en mode hyper conflictuel. Ensuite, le public participe, les enfants font leurs propositions, les adultes font leurs propositions, ils rejouent avec ces propositions-là pour finir sur une proposition avec les outils de la communication non-violente, parce que ce sont des gens qui sont formés en communication non-violente. Et voilà. Et surtout, on enchaîne derrière avec un atelier pour qu'avec les parents, on continue et on se dise, OK, c'était quoi le sujet qu'on a envie d'approfondir, et là, on peut approfondir. Je veux préciser qu'on peut arriver à l'atelier si on n'a pas vu le spectacle, et que pour ces deux temps-là, le premier temps, les enfants sont super bienvenus, mais au-dessus de 6 ans, en dessous, ils peuvent venir, mais l'interaction et le temps, c'est un peu plus compliqué. En tous les cas, on a deux nanas qui viennent. il me dit que c'est fini, c'est ça.
Allez-y, on a...
on a embauché deux jeunes adultes, là, deux Crozons, qui vont s'occuper des enfants pour que les parents aient l'esprit tranquille pendant ce temps-là. Voilà, et donc ce sera dedans, dehors, il y a un peu de tout, et le lendemain, on rattaque l'après-midi avec toujours des jeux, une grande séance de yoga du rire entre 15h30 et 16h30, et on termine en dansant, parce qu'en fait, les ingrédients de la joie, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Katarias qui a inventé le yoga du rire, qui dit pour le cocktail de la joie, c'est la danse, le rire, le jeu et le chant.
Et puis les gaufres.
Il nous manque que ça.
Et puis les gaufres, parce qu'il y aura des gaufres à manger, il y aura évidemment à manger.
Exactement. Merci. Et des gaufres salées même.
Ouais, merci beaucoup Anne Raffray d'être venue participer à l'émission.
Merci David de m'avoir invitée.